When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info. Ce soir, autour de la table, il y a François Pouponi, bonsoir, bonsoir. François, Yohann Yuzaï, bonsoir, et on accueille ce soir Hadas Jaoui Calderon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous signez 52 jours sans eux, et on va longuement parler de ce livre aux éditions Alizio, parce que vos enfants sont restés otages après le 7 octobre pendant 52 jours. Vous racontez ce qui s'est passé avant, vous racontez ce qui s'est passé pendant, vous racontez un peu ce qui se passe aujourd'hui pour eux, parce que dans leur tête, ce n'est pas terminé, et le combat n'est pas terminé, puisqu'on en est aujourd'hui à 200 jours depuis le début de la guerre. Le papa des enfants s'appelle Hofer, il est toujours otage, hein, il est toujours là-bas, on en parlera aussi, mais... Quand vous demandez par exemple au gouvernement, à l'État, à l'armée, où se trouve Hofer, est-ce qu'aujourd'hui il y a une réponse? Est-ce qu'on vous entend? Est-ce qu'on vous parle?
First, I want to say que je suis très contente d'être ici aujourd'hui.
Mais nous aussi.
C'est très important pour moi d'être ici en France. Car je suis franco-israélienne et l'histoire de ma famille est concernée de France. Mais je préfère de parler en anglais parce que
C'est plus facile. Bon, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? On parlera évidemment, mais simplement, est-ce que lorsque vous adressez au gouvernement israélien ou à l'armée, est-ce qu'on vous donne une information aujourd'hui, 200 jours après le début de la guerre, sur Hofer?
I don't get much information.
Je n'ai pas beaucoup d'informations.
We don't know much.
On ne sait pas grand-chose.
We hardly know anything.
On ne sait pratiquement rien.
Bon, on va revenir évidemment à votre livre dans un instant. Je voulais juste qu'on commence par l'info politique de la journée, mais elle n'est pas si loin de notre sujet. Mathilde Panot convoquée par la police pour apologie de terrorisme, c'est ça?
Absolument.
Il s'agit de poursuivre donc la chef de file des Insoumis à l'Assemblée pour un communiqué publié le jour même du pogrom perpétré par les terroristes du Hamas, communiqué qui parlait d'une offensive armée des forces palestiniennes pour faire face à l'intensification de la politique d'occupation israélienne. Ce sont les mots qui sont dans ce communiqué. Mathilde Panot a réagi en disant qu'il s'agit d'une instrumentalisation grave de la justice visant à bâillonner des expressions politiques. Le régime macroniste, dit-elle, aura transgressé toutes les limites inimaginables. Cette convocation par la police est la deuxième pour LFI après celle de Rima Hassan, qui est candidate aux européennes, pour le même motif d'ailleurs.
Oui, absolument. Moi, c'est ce que j'ai reproché effectivement à Rima Hassan et à de nombreux insoumis, c'est d'avoir trouvé une justification à ce pogrom. Là, ce qui ajoute dans le fait que ce soit abject, c'est qu'il est publié, vous l'avez dit, le 7 octobre, le jour même où 1200 personnes ont été froidement exécutées par les terroristes islamistes du Hamas, alors même que le monde entier était sous le choc, que le monde entier ne comprenait pas ce qui se passait et avait une compassion immense pour le peuple israélien. Eh bien, eux trouvaient déjà, quelques heures seulement après ce pogrom, une justification. Donc que la justice s'intéresse quand même aux différentes déclarations absolument ignobles depuis le 7 octobre de la France insoumise, ça ne me semble pas complètement incohérent. Je trouve même cela plutôt rassurant que la justice dans ce pays fasse son travail et tente de le faire bien.
Jean-Luc Mélenchon a dénoncé sur X un événement sans précédent dans l'histoire de nos démocraties, sans précédent, qui ne viserait qu'à protéger un génocide dans la bande de Gaza. François Pouponi.
Les déclarations de la France insoumise sont un scandale. C'est une honte, surtout le communiqué officiel du 7 octobre. Par contre, juridiquement, au niveau judiciaire, je pense que là, on est sur un sujet plus compliqué parce que Mathilde Panot s'est exprimée à l'époque en tant que présidente d'un groupe de l'Assemblée nationale et donc elle est normalement couverte par son immunité.
Ça peut se lever, une immunité parlementaire.
Alors, ça peut se lever, mais quand un député s'exprime en tant que député, on ne peut pas normalement le mettre en cause. C'est une règle. y compris une règle de la séparation des pouvoirs.
Ce qui n'est pas le cas pour Rima Hassan.
Ce qui n'est pas du tout le cas pour Rima Hassan. Et donc, j'espère que la position
n'était même pas Hassan, encore candidate.
Ni, ni Mélenchon d'ailleurs, ouais. qui n'est plus élu. Voilà, qui n'est pas, parlementaire. Donc, alors, je pense que c'est. Mais on aura un sujet, on aura un vrai sujet judiciaire et juridique par rapport à la séparation des pouvoirs.
Sur ces accusations d'apologie de terrorisme, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé hier soir devant les étudiants de Sciences Po.
Notre pensée est tout entière tournée vers ceux qui sont à cette heure massacrés, comme ils le sont, comme des objets à Gaza. Je sais très bien que nous serons punis par la bonne société pour avoir résisté. Les filles plus que les garçons. Vous avez vu que c'est Rima qui est censée faire l'apologie du terrorisme. Pourquoi elle et pas moi? On allait au même endroit, on a dit les mêmes choses. L'injustice est toujours sexiste. Alors je suppose que mon nom va finir par apparaître dans une liste, peut-être, pour apologie du terrorisme. Et nous sommes parfaitement capables de faire la différence entre un juif et un sniper de Tzahal.
Voilà, alors politiquement, c'est toujours la même technique, hein, la même rhétorique. On est les victimes.
On se victimise.
On est, il y a un complot contre nous.
On avait la police tue. On avait, il y a maintenant, une justice politique. Mmh. Et maintenant, c'est la justice est sexiste. Tous les jours, on conteste encore un peu plus les institutions.
Mais nous sommes les seuls défenseurs des Palestiniens.
Évidemment.
Toute la campagne de LFI pour les européennes est basée là-dessus.
Absolument. Donc, on ne les entend pas
avec,
sur les
avec un socle qui devient solide, à peu près à 7%.
Et tout le débat, et c'est la première partie de la campagne des présidentielles, toute la présidentielle se fera sur ce thème-là. Nous sommes défenseurs des opprimés, défenseurs des Palestiniens, défenseurs des musulmans, et toute la campagne de LFI va être là-dessus, avec des propos qui sont scandaleux, honteux. Enfin, c'est vrai que c'est important que certaines procédures.
Ils sont peut-être scandaleux, ils sont honteux, il faudra qu'il y ait condamnation ou pas, on verra. Donc la justice va avancer. 200 jours. Non, 200 jours qu'Israël a été attaqué par les terroristes, 200 jours de guerre, mais aussi 200 jours de captivité pour 133 otages, dont 3 franco-israéliens, offerts. Ouad, Orion, dont chaque soir nous réclamons la libération sans condition, et nous sommes les seuls à vous montrer leur visage chaque soir. Hofer est quelqu'un qui compte énormément pour vous, parce que c'est le papa de ces deux enfants, évidemment. Je ne sais pas si vous connaissez, Hadass, les autres familles franco-israéliennes. Est-ce que vous avez des contacts ensemble?
Yes, I do.
Absolument. I do. Oui, oui, certaines, oui.
C'est quelque chose qui compte d'essayer de rester groupé. Quand vous nous avez dit qu'il n'y a pas d'information qui vient de l'État, il n'y a pas d'information qui vient de l'armée. Et il y a de grandes manifestations, d'ailleurs, pour dénoncer ça et dénoncer aussi la politique de Benjamin Netanyahou. On y reviendra. Il y a beaucoup de familles d'otages qui aujourd'hui demandent des comptes et à juste titre. Est-ce que cette solidarité est importante?
It is, yeah.
Absolument, oui.
We all families, we have the same goal.
Vous savez, toutes les familles ont le même objectif. Nous menons le même combat.
We are different ideas,
nous avons des idées différentes.
Different people,
nous sommes des personnes différentes.
The main thing is to bring the hostage home.
L'objectif est de ramener les otages à la maison. C'est notre objectif premier.
You know, we scream our,
et vous savez, nous crions, nous hurlons nos idées.
Actually, the terrorism is like it's happened to us.
Et vous savez, nous avons été victimes de ce terrorisme.
Family, it's happened to me.
Ce terrorisme a frappé ma famille, a frappé mes proches, a frappé ma communauté, a frappé notre pays entier. Il ne faut pas oublier ce jour. Le 7 octobre a réellement été un massacre, un pogrom, une Shoah, un holocauste.
And it's, I think the whole world have to scream.
Et pour moi, le monde entier devrait relayer notre message et le porter haut et fort. C'est une lutte contre le terrorisme. Le terrorisme peut frapper à chaque endroit, à tout moment. Ce n'est pas simplement mon histoire.
Il y a une chose, vous dites, le monde devrait porter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous considérez que le monde ne porte pas vos envies, vos désirs et votre combat.
I think I can hear there is a lot of antisemitism.
J'entends beaucoup d'antisémitisme partout.
talk like it's never happened.
Il y a des personnes qui s'expriment comme si ce massacre ne s'était jamais produit. Pourtant, il s'est produit. J'en ai été victime. J'en parle dans ce livre. C'est mon témoignage, ce sont mes preuves. J'ai des enfants qui sont revenus à la maison et c'était un miracle d'ailleurs. Leur père est toujours captif. Il y a 133 otages qui souffrent encore aujourd'hui, qui sont affamés, qui sont violés, qui sont abusés, des femmes qui sont victimes d'abus à chaque instant. Tout cela se produit encore aujourd'hui. Et donc le monde doit se lever contre ces actes et ne pas les ignorer.
Tout à l'heure, c'est la maman d'Orion qui, pour la première fois, est intervenue sur l'antenne de CNews pour dire son désarroi, mais aussi à quel point elle croyait à la résilience et à la résistance de son fils qui est aux mains du Hamas et des terroristes depuis 200 jours. Orion, il est franco-mexicain, il a 32 ans, il est papa d'une petite fille, il s'est fait enlever au festival Nova, il était le petit ami de Shani Luke, dont l'image du corps mutilé a été exposée à l'arrière du pick-up. C'était une horreur et c'est devenu le symbole des horreurs du 7 octobre, et je voulais qu'on l'écoute ce soir.
On sait qu'il y a des otages qui ont été prisonniers, voire même des années, ils s'en sont sortis. Après, les conditions ne sont pas les mêmes. Là, on est vraiment en guerre. Donc, voilà, c'est là où l'inquiétude peut être, on va dire, importante, quand on essaye d'imaginer où ils peuvent être, s'ils sont alimentés, comment ils dorment. S'ils sont bien traités, etc. Mon fils est quelqu'un de fort et de très résilient et qui sait parler aux gens, à toutes sortes de gens, voilà, avec quelqu'un qui a des atouts en sa faveur, on va dire. Et voilà, on garde tous vraiment l'espoir. Après, il y a des périodes où ça fait moins de bruit, ou ben surtout en ce moment, on parle beaucoup moins des otages, puisqu'on parle plus de la situation de l'Iran et Israël. Donc ça peut être beaucoup plus angoissant. On a l'impression que le thème est un peu oublié, et surtout quand on se rend compte que ça va faire déjà 7 mois, c'est quand même très long.
C'est très long. C'est très très long, Hadas.
Yeah. Yeah.
Absolument. Il l'a dit. 200 jours déjà. Ils sont détenus dans des conditions très difficiles. Mes enfants m'ont raconté. Même les personnes fortes peuvent retrouver des difficultés à survivre. Et on peut retrouver des corps. À la place de retrouver nos amis, nos proches, ce sont des cadavres qui peuvent revenir à la maison. Nous sommes terrifiés, réellement terrifiés.
Nous, on essaye toujours de revenir au 7 octobre et d'essayer de raconter des histoires, parce que ce ne sont pas simplement des noms, ce ne sont pas simplement des photos, même qui sont collées partout en France. Vous avez entendu un peu de l'histoire de Orion. Quelle est l'histoire de Hofer? Quels sont ses principaux traits de caractère qui font qu'il va pouvoir, il peut résister, il va pouvoir, en tout cas, faire face à cette situation qui est terrible, que personne ne souhaite.
Hofer is a strong man.
Vous savez, Hofer, c'est une personne forte. C'est un homme optimiste.
He's a man that like life.
C'est un homme qui aime la vie.
Like he's a very good father.
C'est un très bon père qui aime beaucoup voyager, faire du vélo, du VTT. Il aime le grand air. Il aime la nature. Il est charpentier, vous savez. Il sait bien travailler de ses mains. C'est comme un artiste. Je n'arrive pas à l'imaginer dans un tunnel sombre, sans bruit, sans air, sans voir l'extérieur. Je n'arrive pas à imaginer une telle situation. Bien que ce soit un homme fort, c'est difficile de survivre dans des conditions aussi terribles. Vraiment, on peut dire qu'il y a péril dans la demeure aujourd'hui. Nous sommes en train de perdre ces otages.
Johann François.
Je voulais d'abord vraiment vous saluer et dire toute l'admiration qui est la nôtre par rapport à votre courage et à votre combat et tout le soutien qui est le nôtre. Je voulais avoir des nouvelles des enfants. Comment vont-ils ?
my children. They miss their father. They worry
les enfants,
for their father. They can't really
leur père leur manque. Ils ont du mal à reprendre le cours d'une vie normale sans leur père. Et je me bats parce que je veux que mes enfants aient un père qui puisse les enlacer, voyager avec eux, les embrasser, leur apprendre des choses, être présent avec eux. Je ne veux pas que mes enfants aient à aller visiter la tombe de leur père. Ces enfants ont besoin de leur père. Nous avons 4 enfants au total, ces enfants ont besoin de leur père. Ils ne font qu'y penser encore et encore, toute la journée, ils ne pensent qu'à lui.
And they have a lot of, you know, they got through a traumatic.
Vous savez, ils ont traversé une situation très traumatique.
And they have a lot of fears.
Ils ont beaucoup de craintes, de peurs.
Many things. It will take time.
Cela va prendre du temps pour que mes enfants guérissent.
Je vais donner la parole à Yoann, mais juste, je voulais vous montrer une image que je souhaite vous commenter. C'est, nous sommes le 27 novembre, exactement. C'était il y a quasiment 5 mois, et vos enfants sont libérés. Et c'est la première image qui nous parvient, celle-là. Wow. Elle est très courte. Quelle est votre réaction à ce moment-là?
When they just came.
Ah oui, lorsqu'ils sont rentrés.
First, I must tell you that I was
tout d'abord,
very,
je dois vous dire
very
que
afraid from
vraiment,
that moment
because, j'avais très très peur à
you know,
ce moment-là.
I thought, wow,
je me suis dit,
I don't know what I'm going to see.
Wow, je ne sais pas ce que je vais dire.
Alors, simplement, ici, on est vraiment, et il faut le rappeler, c'était une mise en scène abominable. Johan, c'était une mise en scène abominable où les terroristes donnaient les otages chaque soir aux membres de la Croix-Rouge. En général, d'ailleurs, on floutait parce qu'on ne montre jamais les images de personnes qui sont sous la contrainte. Mais bon, là, ils sont de dos.
Oui, et même les prenaient dans les bras pour leur dire au revoir, une manière de montrer qu'ils étaient bien occupés d'eux, que les terroristes étaient finalement des personnes pas si mauvaises que cela. Donc la mise en scène était évidemment abjecte. Mais que peut-on attendre de la part de ces personnes? Évidemment, rien d'autre. Mais il est vrai, madame, d'abord que votre force... force le respect, précisément, parce que la manière dont vous témoignez est évidemment est très touchante. Et vous avez raison de dire que le monde entier aurait dû se lever et devrait se lever encore aujourd'hui contre ce qui est en train de se passer. Mais la réalité, c'est que le monde entier a oublié ce qui s'est passé le 7 octobre. Le 7 octobre n'existe plus. Les victimes sont complètement oubliées. Les plus de 1200 victimes de ce pogrom sont passées à l'oubliette totalement. Et quelque part, moi, j'ai honte aussi de mon pays quelque part, parce que voyez-vous, quand le gouvernement français a commencé à menacer de sanctions Israël dans un moment extrêmement difficile.
C'était juste avant les frappes de l'Iran sur Israël. La position a changé.
Absolument, la position a changé.
Quelques jours.
Mais je crois que le gouvernement français, dans ce contexte, n'a pas toujours été à la hauteur. Et sincèrement, venant d'un pays comme la France, qui est censé être un ami indéfectible d'Israël, je crois que notre pays n'a pas toujours été à la hauteur. On peut le regretter et aussi en avoir honte.
Autre image que je voulais vous montrer, Hadas. Autre image, c'est le 30 octobre. Alors, on est quelques jours après, on est moins d'un mois après le pogrom, et vous retournez à Nyros pour la première fois. Je crois que c'était le 30. Regardez ces images. Qu'est-ce que vous découvrez? Est-ce que vous pouvez nous décrire?
I saw my destroyed house.
J'ai vu ma maison détruite, en ruine.
It was very hard.
C'était vraiment très difficile, une période très difficile.
Like you know, it was a nice, quiet place
with full of life and children and de vie avec des enfants.
And power, and suddenly
there is
nothing.
Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Je pouvais simplement entendre les oiseaux. Il n'y avait plus rien d'autre. C'était comme une maison fantôme, une ville fantôme. Il ne restait plus rien. La plupart des maisons avaient été brûlées. Elles étaient vides. J'ai eu l'impression qu'ils avaient volé notre âme. Ils avaient totalement assassiné notre âme.
Il y a 400 habitants, et vous le racontez dans le livre, il y a 400 habitants. Qui vivent dans ce kibbutz. Yes. On est à 2 kilomètres à peine de la frontière. Et vous avez, d'une certaine manière, toujours eu confiance. Vous faites partie, je pense, de ces juifs de gauche qui se sont installés près de la frontière en disant un jour il y aura la paix, on peut avoir confiance, il va se passer quelque chose de bien. Je me trompe?
Vous savez, nous avions cet espoir. Nous nous sommes battus pour cela pendant toute ma vie. Mes parents se sont battus pour cela également. Nous nous sommes battus pour cet espoir. Et encore aujourd'hui, je suis convaincu d'une chose, c'est que il faut vivre ensemble en paix. C'est la seule manière. C'est très difficile pour moi aujourd'hui, vous savez. Après tout ce qui m'est arrivé, ma chère mère a été assassinée, ma nièce a été tuée également, et j'ai beaucoup d'amis qui ont été tués. Je devrais avoir envie de me venger, avoir cette soif de vengeance, mais je pense que la soif de vengeance ou la vengeance ne donne pas l'espoir. Je suis convaincu qu'il faut se battre pour la paix.
Je sais que François Pomponi, juste simplement à ce propos, parce que ce matin, sur le plateau, il y avait Olivier Jaoui. Olivier Jaoui, c'est votre cousin. Et il a raconté à quel point, lui aussi, il a eu ce traumatisme d'avoir perdu le 7 octobre ses cousines, surtout cette image qui le hante d'avoir perdu, et j'espère qu'on va les voir à l'écran, Noya, qui avait 13 ans, et sa grand-mère, Carmela, 80 ans, et elles ont été assassinées ensemble, alors qu'elles se tenaient serrées l'une contre l'autre.
Ce 7 octobre a été un trauma d'abord pour la société israélienne. Ma cousine, la mère d'Adas, 80 ans, a été assassinée le 7 octobre. La nièce d'Adas, la petite fille de ma cousine Carmela, 12 ans, a également été assassinée le 7 octobre. Et on sait maintenant qu'elles ont été retrouvées mitraillées et brûlées, enlacées, toutes les deux dans l'abri, dans leur maison. Donc on doit vivre avec ça. Le retour des enfants d'Adas, 12 ans et 16 ans, Erez et Sahar, qui a 16 ans, cette jeune fille le dit encore, son corps est en Israël, mais sa tête est encore là-bas. 52 jours, 52 nuits de captivité. Leur maison brûlée et leur père toujours otage avec au moins 130 otages. On a espoir encore, on est obligé. Et on... Voilà, c'est vraiment terrible depuis 7 octobre.
François Pomponi.
Tous ceux qui ont vécu le 7 octobre, qui vivaient à proximité de Gaza, ont tous parlé de ces Gazaouis qui venaient travailler tous les jours de Gaza en Israël, qui rentraient, des liens avaient été créés, l'espoir de la paix, du vivre ensemble. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous espérez que le jour où le Hamas aura été éradiqué, le jour où les otages auront été libérés, est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra retrouver des relations entre Gaza, les Gazaouis et les Israéliens et qu'on pourra de nouveau essayer de... Quel est votre sentiment là-dessus? Parce que je sais qu'en Israël, c'est très partagé.
We should. I mean, it depends of the leaders.
Évidemment, cela dépend des dirigeants au pouvoir. Cela dépend de les dirigeants nous mènent. Tout dépend des dirigeants que nous avons. Évidemment, on peut aller d'un côté ou de l'autre, dans une direction ou dans une autre. Je pense que si on va dans la mauvaise direction, si on poursuit le chemin de la guerre, du terrorisme, eh bien nous n'avons pas d'avenir. Je ne veux pas que mes enfants et mes petits-enfants vivent dans un monde en guerre permanente. Il n'y a pas d'avenir dans la guerre. Le Hamas promeut la mort. Nous devons promouvoir la vie. C'est ce qui nous différencie.
Juste avant de faire le journal, j'ai encore une question, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes, vous racontez beaucoup de choses dans ce livre. Et vous êtes une mère, et il faut savoir que les mères juives, c'est prêt à tout pour ses enfants. Toutes les mères, d'ailleurs, sont prêtes à tout. Mais vous avez remué les terres, vous avez rencontré les grands dirigeants de ce monde, et notamment Joe Biden. Et vous étiez furax, mais alors furieuse contre Joe Biden. Racontez-nous pourquoi.
Aujourd'hui, j'apprécie énormément le travail de Biden parce qu'il a beaucoup fait pour Israël. Vraiment, il a beaucoup fait et encore aujourd'hui, il fait beaucoup pour Israël. Il nous a énormément aidés. Mais au moment où je l'ai rencontré, c'était après les premiers jours, j'étais totalement hystérique. Comment dire ? Je cherchais de l'aide. Je cherchais de l'aide auprès des dirigeants, les personnes fortes, les personnes qui détiennent le pouvoir. Et au tout début, je ne voyais pas de réponse. Je ne voyais pas cette aide. Mais après un petit peu de temps, je me suis rendu compte que Joe Biden réellement nous avez, aidé.
Je crois qu'il s'est endormi lors d'une conférence. Je crois qu'il y a eu un petit problème où il a pas suivi. Il a eu une petite absence. Et ça vous a rendu furieuse, je crois.
Yes, it was really.
Ça, c'est dans le livre. Hein,
It was really.
Oui, vous avez raison. C'était vraiment au tout début. Il n'avait pas encore pris conscience de la situation. Et j'ai eu l'impression de devoir le réveiller et de lui dire.
Biden,
réveillez-vous. Un holocauste est en train de se produire. C'est une Shoah. Vous devez nous aider. Vous devez agir. Vous devez faire quelque chose. Qu'allez-vous faire? Je lui ai demandé qu'allez-vous faire pour nous aider.
C'est la dame.
Vous savez, parfois, il faut secouer un peu les gens.
Ouais. C'est la dame qui réveille Biden, hein, qui est là sur le plateau. On va en parler de votre livre dans un instant. Je salue Simon Guilain parce qu'il est 21h30 et qu'il faut rappeler les titres de l'actu. Salut Simon.
Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. Pour faire face à la délinquance chez les adolescents, eh bien plusieurs villes de France ont décidé de mettre en place un couvre-feu. Christian Estrosi a annoncé que la mesure entrera en vigueur à Nice le 1er mai pour les mineurs de moins de 13 ans. Un couvre-feu a déjà été instauré hier à Béziers à la demande de Robert Ménard. C'est également le cas à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour tous les mineurs âgés de moins de 18 ans. Après une interminable bataille, le Parlement britannique a finalement adopté le projet de loi sur l'expulsion de migrants au Rwanda. Tous les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni seront donc immédiatement envoyés vers ce pays d'Afrique. Le Conseil de l'Europe et l'ONU appellent Londres à revenir sur cette décision. Et puis l'expulsion d'un imam de Toulouse a été validée par la justice. Mohamed Tayatat a été renvoyé en Algérie vendredi dernier à la demande de Gérald Darmanin. En 2022, il avait été condamné pour avoir prononcé des propos antisémites. Le ministère de l'Intérieur évoque un intérêt impérieux de préservation de l'ordre public et de l'ordre social.
Merci beaucoup Simon. Donc encore une fois, des propos antisémites, indignes, etc. Il y en a beaucoup. François Pouponi, je ne sais pas si vous avez vu ces images. Il y a des manifestations pro-palestiniennes en France. Elles sont organisées dans les facs, elles sont organisées à Sciences Po chaque semaine, mais aussi dans les écoles, dans les gymnases. Et samedi, c'est à Fontenay-sous-Bois. 94, je ne sais pas si vous avez vu ces images, il y avait un match de foot pour la Palestine qui était organisé. Et là, on a parlé hier, on a assisté à un défilé, une parade militaire qui rappelle certaines parades qui sont terminées par des exécutions. Hein, faut être, voilà. On a flouté les images des enfants qui tiennent de chaque côté le drapeau palestinien. Le maire de la ville a laissé son gymnase en connaissant très bien visiblement cette association. Association donc qui a organisé ce happening avant une rencontre de foot. Et là, encore une fois, on a parlé de génocide, de massacre, etc., d'un État sioniste tyran. On est en train d'attiser la haine contre les juifs en France.
Je ne
sais pas si vous connaissez Fontenay. Mais
oui, malheureusement, à partir du 7 octobre, tous les antisémites sont désinhibés. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'on aurait pu espérer que, justement, le monde entier comprenne ce qui s'est passé et défende les victimes du terrorisme. Et c'est le contraire qui se passe. C'est aujourd'hui ceux qui ont fait l'acte de terrorisme qui sont soutenus un peu partout, officiellement, par des élus, par des non-élus, des municipalités qui prêtent des salles. On a le droit de faire ça, mais quand une association juive va demander une salle, on va lui refuser parce que c'est une association juive. Quand des étudiants juifs veulent rentrer à Sciences Po, on les met dehors.
Là, c'est par clientélisme qu'il fait ça, le maire.
Oui, clientélisme, par faiblesse, parce qu'il y a une forte communauté musulmane, parce qu'ils veulent pas se les mettre à dos, parce qu'ils y croient, certains. Certains élus sont dans cette ligne-là. Voilà. Et rappelez-vous la manifestation des femmes juives le 8 mars qui défilent pour soutenir les victimes du terrorisme et qu'on met dehors au nom de sales juives, sales putes. Voilà. C'est ce qui se passe en France actuellement et un peu dans le monde et c'est ça qui est terrible.
Yann.
Oui, ce qui est frappant et de mon point de vue incompréhensible, c'est que depuis le 7 octobre, en réalité, les victimes sont devenues des coupables. Voilà. Maintenant, pour l'opinion, une grande partie de l'opinion, les victimes, à savoir les juifs, sont devenus des coupables, les génocidaires du peuple palestinien. Alors qu'évidemment, les choses ne se présentent pas du tout de cette manière-là. Et c'est là que la parole politique a une véritable responsabilité. Je parle de la parole politique française en ce qui me concerne. Et qu'elle a une responsabilité dans ce qu'ont connu d'atroces nos compatriotes en France.
Il se passe aussi des choses aux États-Unis, dans les facs américaines, qui sont noyautées avec des campements pro-palestiniens qui sont installés dans l'enceinte même d'un campus. On va voir les images, Columbus. On n'imagine pas du tout comment les étudiants peuvent travailler, peuvent même venir, c'est impossible pour eux d'entrer. Il y a un professeur qui a dénoncé ça, il s'appelle Shai Davidai. Il a essayé de rentrer, je crois qu'on a les images, il a essayé de rentrer dans l'université dans laquelle il travaille. Et il n'a pas pu rentrer parce que on lui a désactivé le badge à l'entrée. J'espère qu'on va pouvoir retrouver ces images. Le voilà. Donc là, il a son badge à l'entrée, et là, c'est la personne qui s'occupe des entrées, visiblement. Il dit, non, monsieur, vous pouvez plus travailler. Vous rentrez, vous n'êtes pas en sécurité, et vous mettez votre vie en danger, et surtout, vous allez faire du trouble sur le campus. Donc, on a désactivé votre badge. On a désactivé vos badges. Là encore, on pense à l'envers. Et au même moment, à l'intérieur du campus, il y a quelqu'un qui a été viré par la fac pour des propos antisémites, pour avoir dit « je soutiens Daesh, je soutiens les terroristes du Hamas », etc. Alors il n'a plus le droit de travailler, mais lui, il est à l'intérieur du campus. Donc tout est absolument à l'envers. Et je voulais qu'on écoute l'historien Michel Abitbol. Il y a des questions qui se posent sur les Juifs aux États-Unis. Michel Abitbol, ce matin sur CNews, il estime qu'il y a une nouvelle génération de Juifs qui n'est pas pro-israélien.
On semble oublier dans son occulté que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y avait par exemple un numerus clausus anti-juif dans les universités américaines. Cet antisémitisme dormant s'est réveillé avec l'afflux d'abord des capitaux qataris et autres qui ont acheté véritablement des chaires dans les grandes universités américaines au point d'empêcher la nomination de chercheurs israéliens, l'invitation de chercheurs israéliens dans ces chaires, l'afflux massif d'étudiants arabes dans ces universités. Et puis, il ne faut pas oublier non plus l'indifférence de la nouvelle génération juive qui est de moins en moins pro-israélienne, de moins en moins attachée au judaïsme. Il y a un mouvement anti-israélien, on peut dire anti-sioniste, assez puissant d'ailleurs dans les universités israéliennes, même parmi dans les synagogues, disons, libérales.
Bon, alors voilà, cette dernière phrase, elle est très étrange pour beaucoup de gens. C'est la première fois que j'entends ça.
Oui.
Je sais pas quelle est votre réaction, parce que je vous ai vu dire ce... faire un mouvement de tête en disant ce type là
très inquiète
vraiment par rapport à ce qui se passe, très inquiète vraiment. Je pense que tout le monde devrait être inquiet. Ces idées, ces histoires d'antisémitisme sont vraiment très dangereuses.
It's really dangerous for
très dangereuses pour nous tous.
For all of you.
Pour vous tous également.
Not just for us.
Pas uniquement pour nous.
Pour nous en France. Bien pour sûr. Nous en France, parce que je vous ai entendu dire que...
Oui, partout. On ne sait jamais ce qui peut se passer.
Mais ça vient de loin en France. Enfin, l'antisémitisme en France, on l'a connu, bien entendu, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais le nouvel antisémitisme, qu'on appelle l'antisémitisme, il existe dans les quartiers depuis 20 ou 30 ans. Il y a des communautés juives qui ont disparu de certaines villes. On l'a dénoncé, on l'a annoncé. Enfin, le nombre de Français de confession juive qui ont été tués sur notre sol parce que juifs, c'est voilà. Et là, depuis 7 octobre, ça n'a fait que s'amplifier.
Sauf que le 7 octobre, on s'est aperçu que même la terre où les juifs pensaient trouver refuge, finalement, n'était pas un refuge total et sans danger, en réalité.
What you asking again?
Est-ce que vous me posez une question?
Oui, je disais que après le 7 octobre, alors que beaucoup de Français et même de Juifs dans le monde pensaient que Israël était vraiment une terre où ils étaient protégés, se sont aperçus que ce n'était plus le cas. C'est peut-être le grand changement.
It's not safe in Israel.
Ils ne sont plus en sécurité en Israël.
You know, I think there is no
vous
safe
savez,
place.
Je pense que il n'existe pas de terre sûre.
I mean, Israel, it's a strong country.
Israël, c'est un pays fort.
This country will manage to protect.
C'est un pays qui réussit à protéger ses citoyens.
At the 7th of October, Israel failed.
Mais le 7 octobre, Israël a échoué.
And it's, you know, it's make you think.
Et cela fait réfléchir.
Is it safe there?
Est-ce qu'on est en sécurité en Israël? Je ne sais pas.
It's hard to say.
C'est difficile à dire.
But it's not safe anyway.
Quoi qu'il en soit,
bon.
Le terrorisme existe partout. It's aucun endroit n'est sûr.
Surprise, you know,
et il peut nous prendre par surprise, comme le 7 octobre. Le terrorisme peut frapper à tout moment par surprise.
Child,
quand on est un enfant, quand on va au restaurant, peu importe.
Merci beaucoup, Hadas, d'être venu nous parler. 52 jours sans eux. Israël, 7 octobre, le témoignage d'une mère otage chez aux éditions Alizio. Ça sort demain, un peu partout en France. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce soir et bravo encore une fois pour votre courage et ce combat. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. Peut-être qu'on parlera des couvre-feux qui vont se multiplier. Voilà, si on a encore un peu de temps. À tout de suite. On va développer deux actualités parce qu'il nous reste peu de temps, notamment le couvre-feu. Mais d'abord, je voulais qu'on écoute un témoignage très fort, celui de Sandra. C'est une jeune femme qui ne comprend pas pourquoi, après avoir été agressée sexuellement par un Tunisien sous OQTF qui se faisait passer pour un chauffeur VTC mais qui n'avait pas le permis, elle ne comprend pas pourquoi il a été remis en liberté par un tribunal. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, Sandra revenait d'une soirée privée à Paris où elle a été sans doute droguée à son insu. Elle s'est évanouie. La suite, elle raconte. Là.
Je me suis rendue à une soirée et de là, blackout, je me réveille vers 8h40, nue dans mon lit avec un homme nu et qui était en train de me toucher, de m'agresser. Moi, sur le coup, j'ai été choquée, paniquée, je lui ai dit de partir, je lui ai dit « je suis désolée, mais il va falloir partir », j'arrivais même pas à le regarder. Ils l'ont retrouvé très vite, donc le lendemain, il a été retrouvé, il a été placé en garde à vue. Il y a eu la confrontation, etc. Et en fait, il a été placé déféré au tribunal de Nanterre. Et à ce moment-là, il n'a pas été placé en détention provisoire. Si un jour, il est contrôlé et qu'on voit qu'il est sur un fichier, dans ce cas-là, il va potentiellement avoir la peine. Mais jusque-là, parce qu'il n'a pas été placé en détention provisoire, il aura rien, quoi. Et je trouve ça hyper décevant et frustrant. L'enquête a été hyper bien menée. Il y a vraiment des preuves à l'appui. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Mais parce qu'il n'a pas été en détention provisoire, il ne va rien se passer.
Voilà, il s'est évanoui dans la nature. Il n'avait pas le droit d'être chauffeur de taxi et pas de permis. Il a utilisé la licence d'un autre. Enfin, il y a tout dans cette histoire et le type est dehors.
Pour le France, enfin, c'est incompréhensible.
Non.
C'est inexplicable, incompréhensible. Et c'est le nombre d'événements qu'il y a comme cela, tous les jours quasiment, on a les commenter, fait que le citoyen lambda se dit mais dans quel monde on vit, quoi. Et donc il y a une rupture entre les institutions et le citoyen qui disent mais on n'est plus dirigé, nos institutions ne nous protègent plus, et le sentiment d'impunité pour les délinquants, il est maximum.
Bon, je voulais qu'on termine, Johan, un mot rapide, parce qu'il y a 3 minutes.
Oui, non, mais très rapide, mais le simple fait qu'il n'y ait rien à faire chez nous, qu'il soit visé par une obligation de quitter le territoire français, devrait faire qu'automatiquement, de toute façon, il soit placé en centre de rétention et il ne puisse plus nuire à personne dans ce pays. Il aurait dû être renvoyé chez lui, être jugé d'abord, exécuter sa peine et renvoyé chez lui. C'est le béaba.
Les couvre-feux. Ce soir, le maire de Nice, Christian Estrosi, annonce la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans dans sa ville à partir du 1er mai. Et pour tout l'été, en Guadeloupe, Gérald Darmanin a ordonné un couvre-feu pour les moins de 18 ans à Pointe-à-Pitre et entré en vigueur cette semaine pour une durée d'un mois renouvelable. Et Béziers, Robert Ménard également pour les moins de 13 ans non accompagnés a demandé. Il a déposé quoi ? C'est un arrêté municipal.
Un arrêté municipal qui court jusqu'à la fin du mois de septembre.
Allez, on écoute.
C'est une mesure de bon sens. Est-ce que vous croyez qu'un minot qui a de 9 ans, 10 ans ou 11 ans, il a à être tout seul en pleine nuit dans la ville? Bien sûr que non. D'abord, quand ils sont en bande, ils sont souvent des dangers. Et quand ils sont tout seuls, ils sont en danger. Et donc, c'est pour ça que je l'avais fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on avait été poursuivis, vous en souvenez peut-être, par la Ligue des droits de l'homme, comme si elle avait rien d'autre à foutre, la Ligue des droits de l'homme, que de s'occuper de ça. Et ensuite, ça avait été, du coup, cassé par le Conseil d'État. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus exactement dans la même position. D'abord, les mentalités ont évolué. Regardez, au même moment où je fais ça, le ministre de l'Intérieur fait au fond la même chose. En Guadeloupe, c'est difficile de me dire, en Guadeloupe, le ministre a raison de le faire et vous, vous n'avez pas raison de le faire à Béziers.
Alors, c'est une mesure de bon sens, mais finalement, on se dit, mais pourquoi ce n'est pas généralisé à toute la France?
Parce que, pour la raison qu'a donnée Robert Ménard, c'est que lorsque les associations de défense des libertés attaquent ces arrêtés, souvent la justice donne raison à ces associations.
C'est quoi ? Non, en plus, il a été condamné. Je crois qu'il a payé 5 000 euros.
Et là, il est encore condamné parce qu'il a refusé de marier une personne sous OQTF. Bon. Enfin,
c'est un dangereux voyou, Robert Ménard.
Mais donc, il tente le coup. Mm-hmm. Mais moi, j'attends maintenant de savoir comment cet arrêté va être attaqué et s'il va être annulé ou pas. C'est ça la vraie question.
Et pourtant, c'est du bon sens. Et pourtant, on se dit que des gamins de moins de 13 ans n'ont rien à faire dans la rue, et ça serait les protéger.
Mais certains tribunaux administratifs considèrent que c'est liberticide, et donc que l'on ne peut pas interdire les jeunes de se déplacer la nuit dans la rue.
Ce qui est dramatique, si vous voulez, c'est de devoir en arriver là. Ça en dit long sur l'état de notre société. Parce que si les parents, si tous les parents faisaient correctement leur travail, entre guillemets, ou en tout cas remplissaient le rôle éducatif qui devrait être le leur, un maire n'aurait pas besoin de prendre un tel arrêté. Parce qu'il est évident qu'un gamin de 13 heures n'a rien à faire dehors après 23 heures. Ou en tout cas, on est en droit de s'interroger sur ce qu'il fait dehors après 23 heures. Donc effectivement, 13 à 13 ans, je comprends qu'un maire inquiet pour ce qui se passe dans sa commune la nuit, où il y a des violences,
Guadeloupe,
etc.
Guadeloupe, c'est 18 ans. Hein. 18 ans. C'est 18 ans. 67%, vous voyez notre sondage, 67% des gens sont pauvres. Et encore une fois, c'est du bon sens. C'est une façon de protéger c'est une façon de protéger la rue. C'est une façon de protéger
les jeunes, bon sens aussi.
Les jeunes.
Rappelez-vous, ça avait été fait pendant les émeutes de 2005 et de 2007. Mmh. Hein, et la grande difficulté pour les policiers, c'était d'interpeller ces jeunes. Mmh. Parce que si l'arrêté est maintenu, et tant qu'il est maintenu, les policiers ont maintenant l'obligation d'interpeller ces jeunes qui sont mineurs, enfin moins de 13 ans, de les ramener chez eux, dans les voitures de police, etc. Ce qui n'est pas simple à faire, parce qu'il y a une vraie logistique à mettre en place, y compris de les interpeller, de les amener au commissariat, d'appeler les parents.
Ça prend un temps fou, en plus.
Mais ça prend un temps fou, mais il faut le faire. Je pense que c'est une bonne mesure. Je suis un peu pessimiste sur le fait que ces arrêtés...
Ne vous en faites pas, ça sera attaqué.
Oui,
non, ça c'est une certitude. Bon, on va en rester là pour ce soir. Merci beaucoup. Je rappelle ce livre, 52 jours sans eux, de notre invité tout à l'heure, Hadass Jaoui Calderon, édition Alizio. Merci à tous les deux. C'est une émission un peu différente des autres, mais avec un témoignage fort pour marquer, évidemment, les 200 jours de guerre. 200 jours qu'il y a des otages en Israël. Ils sont encore 133. Et le président de la Knesset disait, il y a quelques jours, sur le plateau de Punchline, était ici, il disait plus de la moitié, selon lui, sont encore vivants. Je trouve qu'il est sans doute très optimiste d'après d'autres voix, et notamment aux États-Unis. Je vous remercie tous les deux. Dans un instant, Maureen Vidal va vous rejoindre pour le 22h. Julien Pasquet, Soir Info. Bye bye, à demain. Merci Adrien Fontenot. Bye bye.